I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kif Taras, on parle sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de noirs, de blancs. Et depuis 2018, Rokaya Diallo et Grace Lee ont eu à cœur de créer un lieu sûr pour leurs invités. Un cadre détendu et bienveillant pour avoir l'espace et le temps de partager leurs réflexions et leurs expériences du racisme sans être interrompues ou discréditées. Comme beaucoup de femmes non blanches, Rokaya et Grace expérimentent quotidiennement l'impact du racisme et du sexisme, par exemple lorsqu'elles prennent la parole dans l'espace médiatique et plus largement dans leur propre vie. On vous propose justement dans cet épisode best-of de découvrir ou redécouvrir quelques extraits des précédents épisodes de Kif Taras dans lesquels Rokaya, Grace et leurs invités ont partagé leurs diverses expériences de femmes non blanches. Des situations où elles ont dû faire face à des micro-agressions et des clichés au travail, dans l'espace public, dans la cour d'école ou encore dans la vie de famille. Mis bout à bout, ces récits témoignent des mécanismes croisés et répétés du racisme et du sexisme. Dans l'épisode « De quoi le voile est-il le nom ?», Rokaya et Grace recevaient la journaliste et productrice Nadia Lazouni.
Et du coup, comme c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes par rapport au port du foulard, comme on te voit pas pendant qu'on parle, les gens ne voilà.
Alors, par rapport au port du foulard, moi, il s'inscrit pas dans le rapport avec les autres, mais vraiment dans le rapport avec le divin, avec Dieu. C'est l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Je le porte depuis 7 ans, donc c'est quand même assez récent. C'était en 2012, à la suite d'un voyage qui lui aussi était spirituel. Puis c'est vraiment un choix mûrement réfléchi. Et c'est un vêtement qui me permet d'être en paix avec moi-même. Je sais que c'est difficilement peut-être compréhensible pour certaines personnes, mais véritablement, si aujourd'hui on m'amputait finalement de cette part de moi, je serais très mal. Est-ce que c'est ce qu'on veut en fait finalement des Françaises de confession musulmane qui portent le hijab, d'être dans un mal-être ? Et on sait ce à quoi peut mener en fait finalement le mal-être chez les individus. Donc voilà ce qui est pour moi le foulard.
Et tu as dit sur un plateau de télé où tu as été invité pour donner la réplique à un homme politique issu du Rassemblement National, que tu as dit il est plus approprié de parler de foulard parce que le foulard couvre et le voile dissimule. Moi, j'aimerais que tu m'expliques comment, pourquoi est-ce que, du coup, en France, on dit tout le temps le voile. On dit le voile à l'école, le voile à l'université, le voile ci, le voile ça. Et du coup, pourquoi est-ce que on n'utilise que ce terme-là ?
Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un débat sémantique, en fait, en rapport avec le foulard ou avec le voile. Enfin, si surtout lorsque c'est la classe politique, médiatique, enfin bref, toutes ces connivences qu'il y a parfois entre ces deux espaces, quand ils parlent de voile, il y a cette volonté peut-être de dire que c'est ce qui cache, c'est ce qui nie l'identité de la personne, etc. Et d'ailleurs, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, donc cette loi de 2011, on a beaucoup parlé de ce voile, de cette burqa qui couvre, on essaie de mettre la femme à l'abri des regards des autres, etc. Alors que je pense qu'il faut juste à un moment donné dédramatiser le truc et de dire non, en fait, les mecs, c'est un foulard. C'est juste un bout de tissu qu'on porte en fait sur la tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ce mot. Et puis en général, en plus, quand on parle des femmes qui portent le foulard, on dit d'elles qu'elles sont voilées. Donc en fait, on les réduit aussi à ce foulard, à ce voile, que lorsqu'on dit qu'on porte le foulard, ça va être très compliqué de dire, oui, c'est des femmes foulardées. Voilà.
Donc, c'est vrai.
Un petit subterfuge pour sortir en fait, de cette aussi approche très réductrice en fait, du voile ou du foulard. Ouais.
Non, mais c'est vrai, en plus, je fais souvent l'erreur, j'essaie de me corriger, mais je parle souvent de femmes voilées, et c'est vrai que c'est très passif, en fait. Oui. Parce qu'elles sont voilées par qui ? C'est comme si elles n'avaient pas pris part à ce processus, et que finalement, il y avait quelque chose d'extérieur qui les avait voilées et qui faisait d'elles des êtres un petit peu silencieux.
Oui, et je trouve aussi, par ce que tu dis, Rokhaya, que le fait de... Enfin, toute la sémantique autour du voile et du dévoilement, puisqu'il y a eu des cérémonies de dévoilement, et ce mot dévoilement, il y a un truc de... encore de civilisationnel et de trucs de ah on va dévoiler le grand secret.
Voilà,
il y a un truc genre on est les sauveurs,
qu'est-ce qu'elle
quoi.
Nous cache.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle nous cache.
Et donc toi donc tu dis que tu portes un foulard depuis 7 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie dans la perception qu'on a de toi, est-ce qu'il y a un avant ou un après, sachant qu'il y avait déjà eu pas mal de débats avant 2012.
Ouais. Alors qu'est-ce qui a changé? Alors moi personnellement, avec moi-même, parce que ce que je disais, je me sens beaucoup plus en paix. Alors après, maintenant, dans mon rapport avec les gens, clairement, je ne postule plus à certains postes. Donc à l'époque, j'étais juriste, hein, je travaillais dans des entreprises. Et je me souviens que quand j'ai porté donc, le hijab en donc, 2012, j'avais postulé à un service juridique. Et ça a été vraiment... c'était vraiment terrible, en fait. C'est que je me souviens, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens comme je suis à cet entretien? Je garde le foulard, je le retire. Donc c'était encore récent. Mon cheminement était encore récent, donc c'était seulement un an. Et je l'ai retiré. Et je me souviens que j'avais pleuré et de me dire, mais c'est quand même dingue de devoir renoncer à une part de moi, en plus pour un travail. Enfin, vraiment, pour moi, le travail, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, je suis allée à cet entretien. Et puis, en plus de ça, j'avais l'impression de je me mentais à moi-même, je mentais aussi à l'autre. Mais à la fois, on nous impose, en fait, finalement, ce mensonge. On nous enjoint, finalement, de dissimuler hein, cette identité, comme s'il y avait quelque chose à cacher, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de suspect. Alors qu'en vérité, quand on est français de confession musulmane et qu'on choisit de porter le foulard, c'est une preuve qu'on est profondément français, parce qu'on est en train de dire « je vous raconte comme je suis, en vérité, dans mon intimité ». Donc c'est limite, on est encore plus proche des gens avec notre foulard. Enfin bon.
Et après, et juste une parenthèse, il faut rappeler que c'est pas illégal de recruter des gens qui portent un foulard.
Voilà. Enfin,
donc t'étais dans ton droit.
Exactement, merci effectivement ouais. de l'avoir rappelé. C'est que, surtout à cette époque-là, oui clairement, enfin, faut quand même le rappeler, c'est que dans les entreprises de droit privé, l'employeur est garant de la liberté religieuse de ses salariés. Mais c'est que finalement, la politique, c'est tellement comment dire, c'est il y a une intrusion du politique même dans les sphères privées, dans les entreprises. Bah, de toute façon, on l'a bien vu avec l'affaire Decathlon, que du coup, je me suis dit, j'ai besoin de ce job en fait. J'avais besoin de gagner ma vie. Je l'ai retiré, j'ai passé l'entretien et je me suis dit, les deux jours après, j'ai remis mon foulard. Et je me suis dit, non, je peux pas mentir davantage. Et en fait, je me suis rendu compte que ils ont vu que j'avais pas changé, que j'étais la même personne. Je pouvais dealer avec les clients, enfin dealer des contrats avec les clients. Je déjeunais avec des hommes parce qu'il y a toujours cette crainte qu'on ne puisse pas manger avec le sexe opposé, qu'on puisse pas serrer la main aussi au sexe opposé. Et donc finalement, j'ai été reconduite plusieurs fois hein, dans cette relation de travail. Par contre, on peut renouveler deux fois des CDD. Il a fallu après signer un CDI. Bah non, là c'était plus possible parce que on n'est plus corporate. Alors que pourtant on faisait l'affaire en fait sur ce poste-là. Et donc, ce qui fait qu'après, on intègre cette discrimination. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis une victime, on va dire, silencieuse de l'islamophobie. J'ai une personnalité plutôt forte où je m'assume quand même, mais à la fois, de manière très automatique, hein, je l'ai complètement intégré, je ne postule plus à aucune offre parce que je ne voulais plus faire de compromis avec mes identités.
Dans l'épisode « Ne m'appelle pas Beurette », Lisa Boutelja, actrice et artiste, était l'invitée de Kif Taras.
Et est-ce que tu as entendu parler de ce mouvement dans les lycées récemment, le mouvement du 14 septembre, le hashtag « Lundi 14 septembre » et « Balance ton bahut » pour revendiquer le droit de porter ce qu'elles veulent? C'est une liberté que toi, tu affiches totalement dans ton travail, le fait de pouvoir être qui tu es sans concession à part vraiment ce que tu prônes. Est-ce que tu as suivi ça, le fait de ces jeunes femmes, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui dit qu'il faut porter des tenues normales et
voire des tenues républicaines.
Républicaines. Et avec ça, on se souvient de la collégienne de 15 ans qui était scolarisée à Charleville-Mézières, qui avait été interdite de cours au motif qu'elle portait une jupe trop longue, une jupe noire trop longue. Ça, c'était en 2015.
C'est arrivé à plusieurs reprises.
Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ouais. Charlie Mégère, je crois que c'était il y a quelques années déjà.
Oui, c'était ça, oui.
Parce qu'elle ne respectait pas la fameuse loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique. Donc, En fait, c'est l'interprétation de cette loi qui a été mobilisée parce que est-ce qu'une jupe longue peut être interprétée comme un signe religieux
Ça dépend. Es-tu musulmane ou non?
Ah bah, c'est ça que...
présumé ou pas?
Moi, c'est bon, je peux en porter.
C'est est-ce qu'on présume que ta jupe ait, a quelque chose à voir avec ta religion et auquel cas, certaines jupes vont être considérées comme religieuses et d'autres non. Il y avait eu un problème aussi avec une jeune fille.
Toi, par exemple, aujourd'hui...
Ouais, c'est ça, là, je suis en tenue islamique. Hein. Mais j'ai la tête découverte. Est-ce que ça passe?
Limite,
mais c'est vrai, c'est alors que toi, Lisa, ça va tuer vraiment. Alors, t'es pas républicaine, mais.
Elle a un crop top. Ouais, un crop top, attention.
Une mini-jupe.
Oups.
Mais c'est pas religieux.
Après, moi, je suis totalement pour que les meufs, elles puissent mettre ce qu'elles veulent, quoi. Mais en fait, le problème, et là, ça rentre en compte dans l'intersectionnalité de mon identité, c'est-à-dire que pour moi, en fait. Le droit de vouloir mettre des mini-jupes, en fait, ça rentrerait presque dans un truc d'émancipation sexuelle, donc j'ai pas envie de faire partie, parce qu'en fait, on est hyper sexualisés, nous, les femmes d'origine maghrébine, et de dire que j'ai envie de mettre des mini-jupes et c'est ça qui va me libérer, non, clairement pas, en fait. Parce que c'est une binarité aussi contre laquelle je lutte, c'est-à-dire qu'il y a la binarité de la femme voilée qui serait dangereuse pour la République, et la femme, la beurette, le cliché de la beurette, qui serait du coup hyper sexualisée, une catégorie porno, et voilà. Et en fait, moi, je ne veux pas faire partie de cette binarité, parce que rien que de par mon identité complexe, et bah, c'est impossible. Enfin, et on est toutes dans le cas-là. C'est-à-dire que penser qu'on est soit la beurette, soit la voilée, c'est encore penser ce truc hyper colonial qui est de penser qu'on est interchangeable, alors qu'on a une pluralité de parcours, de vie, d'identité. En fait, en tant que femme, on est élevée dans l'idée en fait, que notre propre corps, et le simple fait d'être une femme et d'avoir une enveloppe corporelle féminine, ça peut nous mettre en danger. Et le simple fait que de sortir dans la rue, il faut faire attention, nous faire attention à ce qu'on met, à nos comportements, à pas parler trop fort, à pas mettre de mini-jupe, à pas, enfin voilà. Et donc voilà.
Et du
donc,
coup, le vêtement pour toi, c'était une manière de un petit peu conjurer ces injonctions qu'on fait aux femmes de pas se mettre en danger du fait, simple fait de leur
bien
corps.
Bien sûr, mais c'est une arme en fait.
Dans Comment survivre au taf, Rokhaya et Grace ont reçu la coach Marie da Silva, créatrice de Nkali, l'agence d'empowerment et de stratégie dédiée aux femmes racisées et leurs problématiques professionnelles.
Il y a d'autres questions que je voudrais te poser par rapport à la position spécifique des femmes non blanches. Mm-hmm. Il y a une question qui nous tient à cœur ici, c'est la question de la fétichisation des corps non blancs. Donc j'imagine qu'il y a des cas spécifiques de harcèlement contre les femmes non blanches auxquelles tu as été exposée. Et puis l'autre question, c'est la question de la compétence, de l'incompétence présupposée, effectivement, où systématiquement, on a besoin de se justifier, on a
bien
besoin
sûr.
De prouver, on a besoin de travailler plus, ce fameux adage pour obtenir moins. Comment tu abordes ces questions-là dans ton travail?
Alors déjà, la question de la fétichisation, en fait, on s'en rend pas compte. Hein. En fait, il ne pourrait avoir de féminisme universaliste. Tout simplement parce que l'expérience des femmes non blanches, déjà, c'est une expérience racialisée. Par exemple, quand je coach une femme noire, quand je coach une femme asiatique, l'expérience du sexisme va être différente. D'accord ? Mais en tout cas, ce qui nous rejoint, le point commun de nos expériences, c'est l'hypersexualisation. C'est-à-dire que l'hypersexualisation, c'est quand on va attacher en fait, un caractère sexuel à quelque chose qui ne devrait pas forcément en avoir par rapport à ce que la personne est. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu des trucs. Enfin, moi, j'ai une cliente qui travaille plus en France depuis, mais qu'on appelait la geisha.
Oh mon Dieu, oh, c'est horrible.
La souplesse avec laquelle ton collègue arrive le matin, toi, t'as même pas bu ton café. Salut la geisha. Ok, c'est comme ça que je commence ma journée de travail. Enfin, les femmes noires, c'est femmes noires au travail. C'est si t'es pas, entre guillemets, la mama qui fait des gâteaux tous les vendredis, bah, on t'aime pas. t'as le malheur d'être, et pour de vrai, hein, si t'as le malheur d'être trop bien habillée, on va dire que tu es méprisante et hautaine. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Mais quand on en parle entre nous, on se sait. Et pour dire en fait à ma cliente en fait qu'on appelait la geisha, je lui ai dit écoute, je lui ai dit voilà, à un moment donné il faut jouer aussi sur les stéréotypes qu'on nous impose, c'est-à-dire que concrètement t'es une femme asiatique, donc on croit que t'es dans la retenue partout, tout le temps, etc. Donc on t'appelle la geisha, tape un coup de pression. Et en fait, c'était vraiment ce cas, c'était vraiment marrant parce que on s'est retrouvé à aller crier dans un parc où je disais c'est pas comme ça qu'on crie, ah mais non, mais redresse-toi, vas-y crie-moi dessus, et tous les gens nous regardaient comme c'est quoi ces deux personnes folles là. Et en fait, je lui ai dit voilà, je lui ai dit dans un mois tu cries sur ton collègue.
Il a dû être choqué.
Non, mais elle avait la date et tout. Elle avait la date. Parce que tous les jours, il y venait de sa petite remarque, etc. Et je lui ai dit, dans un mois, tu vas crier sur ce collègue. Elle l'a fait.
Et c'était un truc lié au travail ou pas du tout ?
C'était, non, c'était au travail.
Oui, mais c'était, elle criait sur lui pour un truc...
Non, il lui a fait une énième remarque pendant la pause déj. Ouais, ouais. On attendait la remarque. Hein. Et en fait, je l'avais préparée. Je lui ai dit, c'est comme ça qu'on crie, etc., etc. Et donc, du coup, elle y était préparée. Et elle m'envoyait des textos. Il n'a rien dit aujourd'hui. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, demain. et quand elle se prend la remarque, genre dans la salle de pause, elle s'est levée. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et plus jamais, il l'a fait. Et je l'ai fait en fait parce que c'était une femme asiatique et que cette espèce de stéréotype comme quoi les femmes asiatiques sont calmes, elles s'énervent jamais. Ouais. On devait aller à l'encontre de ça. Mmh. Par exemple, une femme noire, j'aurais pas conseillé la même chose parce que nous, on a déjà sur notre dos le fameux angry black woman stéréotype. Donc, on serait allé dans un truc beaucoup moins frontal.
Parce que ça aurait nui effectivement, ça aurait entretenu des préjugés existants.
Exactement, exactement. Et donc, le fait qu'elle lui crie dessus, ben, tout d'un coup, c'était « Oh là là, faut pas la chauffer hein. !»
Dans l'épisode Black Beauty Badass, Fatou Ndiaye, blogueuse et consultante des marques de cosmétiques, était l'invitée de Kif Taras.
Par rapport à ton voyage aux États-Unis, donc tu en as parlé souvent, j'ai écouté des interviews que tu as faites et les gens te posent souvent cette question, c'est au retour d'un voyage aux États-Unis que tu as décidé de créer ton blog. Et je trouve que ce lien avec les États-Unis est assez... c'est très inspirant les États-Unis pour cette liberté d'être, etc. Mais il y a aussi un peu un truc du genre, elle a ramené ça des States, quoi. Enfin,
ouais, je vois ce que tu veux dire.
Parce que le marketing ethnique, il est quand même hyper développé aux États-Unis. Et d'ailleurs, même ce terme marketing ethnique, il pose problème.
Oui,
hein,
moi, voilà. J'aime pas.
mais on est là-bas. Là-bas, ils sont pragmatiques, ils voient l'argent où il est, etc., etc. Et nous, on est universalistes, donc voilà. Mais du coup, quel est le rôle des États-Unis dans ta prise de conscience? Et est-ce que pour toi, il y a de l'universalisme dans la beauté? Est-ce que ça peut exister?
Ben, en fait, vraiment, ce qui m'avait marqué à ce voyage aux États-Unis, je me souviens, c'était à l'époque où je cherchais un rouge à lèvres d'une célèbre marque canadienne, qui est noire avec trois lettres, je pense que tout le monde connaissait pas. Et ils avaient un rouge à lèvres qui était très connu. Et comme j'arrivais pas à le trouver à Paris, je me suis dit, bon, je vais aller, comme j'étais en voyage à New York, j'ai dit, bon, je vais aller chez Macy's, qui est l'équivalent de Sephora. Et arrivé au département beauté, ce qui m'avait vraiment émerveillée, c'est qu'il n'y avait pas le rayon, comme on dit, beauté ethnique. Au coin, dans l'ombre, tamisé, dans la pénombre. Et de l'autre côté, un rayon beauté normal, quoi.
Avec la lumière.
Alors, tout était mélangé. Je voyais des vendeuses et des maquilleuses noires, des femmes du Moyen-Orient. Je voyais même des femmes voilées donner des conseils super belles, maquillées et tout. On voyait des homos, des trans... En fait, on voyait que des gens qui aimaient la beauté. Et vraiment, j'ai été éblouie. Je me souviens, je suis restée 5 minutes comme ça, en train de regarder tout le monde, comme si j'étais dans un magasin. J'étais, je sais pas, à Euro Disney, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas ça en France. Quand j'arrive à Sephora, déjà, quand t'es noire et que j'arrivais chez Sephora et que je demandais des conseils à l'époque, la maquilleuse, elle ne savait pas. Elle me disait, bon, si elle voyait que vous avez la peau noire, elle vous envoyait directement dans les marques dites
dans la grotte
ethniques. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. La beauté parle à tout le monde. En fait, qu'on soit blanche, qu'on soit asiatique, noire, maghrébine, indienne, tout ce qu'on veut. Quand on va dans un magasin pour acheter un produit de beauté, on va chercher le produit en se disant, je veux être conseillée. On ne se dit pas, je suis noire, donc il faut que je cherche la vendeuse noire. Je suis noire, donc il faut que j'aille à ce rayon-là. Et pour moi, la beauté doit être universelle parce que dans toutes les communautés, dans toutes les cultures, la beauté fait partie d'un mode de vie. On ne doit pas cloisonner les gens par rapport à leur couleur de peau. Et c'est pour ça que j'ai horreur du terme beauté ethnique, parce que j'ai envie de dire une celte ou une bretonne aussi, c'est des ethnies. Mais on ne va pas dire rayon celte, rayon... Enfin, c'est peut-être bête ce que je dis, mais voilà quoi, juste des rayons beauté. Et je pense qu'on a des yeux, on est intelligent pour ça, connaître qu'il y a tel produit qui est identifié pour les femmes noires ou les femmes à la peau mate, les femmes à la peau blanche. On n'a pas besoin de parquer les gens par rapport à leur couleur de peau.
Le sous-entendu dans beauté ethnique, c'est que les blancs
on n'aurait pas d'ethnicité. C'est vraiment l'idée que les ethniques, c'est les autres. Bah, les autres, après, c'est beauté tout
vous,
court.
Vous, eux, sont normales, donc la normalité. Et puis, il y a les pièces rapportées. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Oui, mais c'est ça.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Fatou. Et en même temps, il y a une vraie complexité de la question, parce que si on ne crée pas des catégories, elles existent quand même. Enfin, si dans la beauté, on reste dans la beauté qui parle à tout le monde, force est de constater que c'est quand même la beauté blanche qui s'impose. Mm-hmm. Puisque, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne voyais pas des femmes noires dans les magazines. Moi, c'est pareil, moi, je suis asiatique. Je crois que jusqu'à 33 ans, je vais bientôt avoir 40 ans, jusqu'à 33 ans, je ne savais pas mettre un eyeliner. Parce qu'en fait, je n'avais jamais vu de personne asiate avec un eyeliner bien mis dans mon entourage, parce que voilà, et ni dans, tu vois, dans les magazines, etc. Et quand j'ai découvert YouTube, enfin, j'ai découvert les youtubeuses beauté, il y a une copine qui m'a dit « Mais si, t'inquiète pas, c'est facile. » J'étais « Non, mais comment je vais faire ?» Et il y avait un step by step, enfin, étape par étape, là, sur YouTube, d'une femme asiate qui se mettait un eyeliner. Et c'était hyper important pour moi d'enfin voir quelqu'un qui me ressemble, ouais. Avec la paupière qui est moins large que d'autres personnes, faire ce geste qui, aujourd'hui, du coup, je me suis hyper entraînée, maintenant, j'arrive à mettre je ne l'ai pas mis aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais je sais le faire. Donc, en même temps, la catégorisation, c'est-à-dire la beauté, c'est pas la beauté asiatique, mais en tout cas, d'avoir une youtubeuse asiatique faire ce geste, ça m'a aidé, moi, à m'approprier ce geste. Donc, Cette démarche, elle est compliquée. Enfin,
bah, disons que moi, je trouve qu'il y a une différence entre le fait que des personnes, des youtubeuses comme celle dont tu parles ou comme Fatou, donnent des conseils spécifiques à des personnes qui en ont besoin parce qu'elles ont les yeux en amande ou parce qu'elles ont les cheveux crépus, etc. Et une marque qui, au lieu de faire un seul rayon avec toutes les déclinaisons de fond de teint, va faire un rayon très grand, très conséquent, et d'un autre côté, va mettre un autre rayon, alors que ce sont les mêmes produits, en vérité, tu vois.
Oui, c'est ça.
C'est plus de dire, en fait, on peut être inclusif dans ce cas-là, et effectivement, on peut quand même considérer que certaines populations ont besoin de conseils spécifiques, donc ça veut dire qu'il faut quand même former les personnes qui sont présentes pour pouvoir prendre en charge toutes les clientes et tous les clients, d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que du coup, au niveau de la cosmétique, il y a des produits... Enfin, il y a des produits qui sont spécifiques à certaines... par exemple, quand on parle des cheveux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des produits qui sont spécifiques aux produits aux cheveux crépus, parce que c'est une question de texture voilà, comment les nourrir, etc. Comment les... Voilà. Alors que peut-être au niveau de la peau, du soin de la peau, c'est pas la même chose que le maquillage, parce que du coup,
ouais, même pour le soin, je pense qu'il y a même un truc d'hydratation qui est différent. Puis après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont liées à la vitamine D, enfin qui est plus ou moins absorbée selon le degré de carnation. Donc il y a même des compléments
après,
alimentaires
je veux dire,
à prendre.
Par exemple, quand on va en parapharmacie, je vois bien, par exemple, des produits peau acnéique, peau sensible. On mélange bien ce type de peau, tu vois. Pourquoi ne pas mettre aussi... En fait, j'ai envie d'arriver dans un rayon de magasin et j'ai des yeux, donc je vais très bien savoir quel est le produit que je cherche. Mais quand je vois qu'il y a un grand rayon tout lumineux avec que des femmes blanches, blondes, et que moi, ben, je suis parquée à 5-6 mètres plus loin dans une lumière qui est un peu tamisée et à la limite, il n'y a même pas de conseiller, ben déjà, je me sens discriminée. Je me dis... Ben, je ne suis pas reconnue dans la société en tant que personne normale. Donc, ça a évolué, heureusement, mais c'est important aussi que le monde de la beauté comprenne que, oui, il y a différentes beautés, il y a différentes femmes, mais quand on fait des produits qui parlent à tout le monde, essayons de globaliser pour que tout le monde se sente représenté et à égalité.
Dans l'épisode « Romney et française », l'autrice Anina Chouchou était l'invitée de Rokhaya et Grasse.
Tu fais beaucoup de descriptions de ce type de discrimination, de l'exclusion que ta famille a subie tout au long de votre parcours. J'aimerais qu'on revienne sur ces notions de dissimulation, de le fait de, comme tu disais, toujours bien parler la langue majoritaire de là où vous vous trouvez. Donc du coup, t'es quadrilingue puisque t'as dû apprendre beaucoup de langues majoritaires.
Plus.
et voilà, tout, dans les vêtements, tu dis que ta maman, quand tu étais petite, elle allait au marché, elle s'habillait, dissimuler son identité sous des vêtements plutôt, de tout le monde, on va dire, voilà, de la majorité.
Non perçu comme Romani, ouais, comme un habit de Romani traditionnel. Ouais.
Et un jour, tu racontes que tu as été au marché avec ta maman et qu'elle s'était habillée avec ce costume traditionnel, non, des vêtements plus traditionnels, on va dire. Et il y avait ta maîtresse au marché et elle a su à ce moment-là que tu étais d'origine Romani. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode ?
Oui, bah, ça fait partie de l'un des épisodes qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on a été élevé dans cette injonction à cacher notre identité romanie et mettre en avant l'identité majoritaire comme étant la seule, parce que c'est ça en fait l'injonction, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule identité et qui est forcément l'identité majoritaire. Et à la maternelle, voilà, fallait que je cache que j'étais la seule élève romanie de ma classe d'ailleurs, parce qu'on était dans un quartier un petit peu mieux, etc., dans une école un peu mieux que celle qui était dans le quartier Rome, en fait, en périphérie. En réalité, c'était ça, la question. Et ouais, j'essayais de le dissimuler. Mes parents, en plus, ils faisaient d'énormes sacrifices et d'énormes efforts pour que moi, j'ai tout le matériel nécessaire, tous les vêtements pour être intégrée avec les autres élèves, ce qui d'ailleurs ne marchait pas en réalité, puisque j'étais quand même isolée de la part de mes camarades.
Il y avait des soupçons, en fait, à ton égard, que tu étais d'origine romaine.
Oui, il y avait des soupçons, et du coup, c'est pour ça que ça emportait un isolement, en fait. Mes camarades roumains, gadgets, ne me donnaient pas la main quand il fallait se mettre en rang, quoi, tout simplement.
Et tu as écrit dans ton livre, et je trouve que c'est très dur, enfin, pour un enfant de se rendre compte de ça, tu as dit « Comme j'étais tzigane, je suis sale ». Il me trouve sale.
Et ça, c'est quelque chose qui est encore très très fort aujourd'hui à l'école. Ces mots-là que moi j'ai entendus quand j'étais petite en Roumanie, c'est les mêmes mots que ma petite sœur, qui est née en France, les a entendus dans une école maternelle en France, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment des préjugés qui sont dispersés comme la communauté, quoi. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle est exposée au même type de préjugés.
Oui, parce que c'est un phénomène que rencontre presque toutes les populations minoritaires de racisme, d'exclusion.
Et tu dis qu'après cet épisode au marché, du coup, la maîtresse, quand elle a su que tu étais d'origine romanie, il y a une sorte de distance qui s'est installée entre toi et elle, et que du coup, ta mère, elle s'en est vachement voulu ce jour-là.
Oui, effectivement, voilà. Donc, la maîtresse est passée dans ce marché, qui est d'ailleurs l'une des seules formes laisser en fait d'activité professionnelle, hein, pour les femmes roméniennes de la ville de Craiova, de pouvoir gagner leur vie. Donc elles exercent un commerce qui est un marché, ma mère, parce qu'elle avait c'était assez difficile de trouver du travail en réalité en étant rome en Roumanie. Elle était sur ce marché, puis la maîtresse a découvert ça et elle était déçue, en fait. J'ai senti qu'il y avait une surprise et une déception, quoi, de dire « Ah non, toi aussi, quoi ». En gros, ça attendait pas, parce que j'étais très bien habillée, parce que j'étais bonne élève, parce que j'avais tout le matériel. Je correspondais pas en réalité, en fait, à l'image qu'elle se faisait, elle, des enfants roms.
Dans l'épisode « Non pas une, mais des identités juives », Grâce et Rokaya ont reçu l'autrice et professeure Chloé Corman.
On n'a pas beaucoup de nuances quand on parle de judéité en France. Donc, tu as parlé d'un peu de blancheur. Et en même temps, dans ton livre, tu dis « J'ai toujours eu conscience d'avoir une culture légèrement différente de la culture dominante. » Donc, ça se retrouve dans ce que tu dis. C'est-à-dire que tu peux passer pour blanche.
Ouais. Est-ce que tu te vis comme blanche? Enfin, c'est ça la question. C'est est-ce que entre ce qu'on voit, est-ce que la manière dont tu te vis, ou est-ce que c'est une interrogation qui est venue de l'extérieur?
Dans le fait de ne pas être discriminée la plupart du temps, même de ne pas avoir l'expérience de la discrimination, en fait. En cela, j'ai une expérience personnelle qui est absolument une expérience blanche. Ce n'est celle d'être une femme, mais ça c'est un autre angle. Mais en cela, dans cette non-expérience absolue de la discrimination, je me vis comme blanche, oui.
Et donc, ton livre s'appelle « Tu ressembles à une juive ». Et donc ça, c'est une phrase que te disait ta grand-mère, Denise. Elle te disait...
Le prénom.
Oui, j'ai noté le prénom. J'ai même noté qu'elle était née Meyer, Wildenstein, puis Villard.
Ouais,
donc, tu vois, pour te dire,
absolument.
Je suis dans le détail, là. Elle ne supportait pas que tes cheveux bouclés restent lâchés quand tu étais adolescente. Et alors, comment tu analyses ça et qu'est-ce que tu as ressenti à entendre cette phrase?
Mais sur le coup, j'ai réagi très vivement et c'est le genre de phrase qui traverse le temps, qui s'ancre et qu'on finit par comprendre des années après. Donc l'anecdote que tu rapportes, c'est aussi une expérience d'adolescente à rapporter, qu'on peut tout à fait rapporter à l'actualité, c'est-à-dire sur le contrôle. Récemment, on a eu le mouvement du 14 septembre avec les filles qui veulent plus qu'on les contrôle sur la façon de s'habiller pour aller au lycée. Mais moi, c'était comme ça à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait des longueurs de jupe et une certaine forme de correction vestimentaire qui était très présente. Et il y avait aussi une police des cheveux.
La police des cheveux,
ça me rappelle des choses.
Et alors ça vient, donc Denise, tu as dit tous ces noms de famille, mais il faut dire aussi que Denise, elle est blonde, elle est, donc c'est la partie alsacienne de la famille, elle a des yeux bleus et elle a aussi été une enfant cachée. Hein, c'est-à-dire qu'elle a survécu à la guerre parce que à un moment ses parents se sont ont laissé elle et sa sœur dans une ferme dans le centre de la France pendant des très longs mois pour qu'elle survive. Donc c'est quand même une expérience traumatisante et je pense qu'elle ensuite qu'elle traverse en étant correcte sous toutes les coutures dans la suite de sa vie. Et une impression d'être discrète de ne pas avoir à se faire remarquer. Et donc, elle supportait pas que je sorte avec les cheveux pas attachés. Donc, moi, je suis brune, j'ai les cheveux bouclés. Et elle voulait soit que je les coupe, soit que je les attache. Mais en tout cas, pas que je me fasse remarquer. Donc, un jour, elle m'a balancée, mais j'ai fait ce que j'avais en tête. Mais elle m'a dit, si tu sors comme ça, tu ressembles à une juive. Ce qui est incroyable comme phrase, parce que tout le monde est juif dans ma famille. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais en même temps, ouais, pour une personne qui a vécu la clandestinité, ressembler à un juif ou à une juive, c'est dangereux.
Oui, c'est ça. C'est aussi la même famille où le nom de famille était changé par mon grand-père de Wildenstein à Villars. Et donc si ça, c'est pas le signe quand même d'un traumatisme. En plus, quand ce choix intervient dans les années 50, hein, même un peu plus tard. Donc voilà, c'était associé à une certaine dureté, à un geste de contrôle des femmes qui est inadmissible, mais qui traduit en fait une peur, sans doute, ouais.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dans l'épisode Noir et Trans, Rokhaya et Grasse recevaient Michaela Danger, artiste et cofondatrice du collectif Case Rebelle.
Ce qui va être attendu d'un point de vue de la féminité, par exemple pour moi, ce qui va être attendu d'un point de vue de la féminité et qu'on va trouver masculin, de toute façon, on le trouve masculin chez des femmes noires qui sont cisgenres aussi, quoi.
Moi, ça me rappelle ce que dit Joao Gabriel dans le livre. Il parle du réaménagement de la condition noire. C'est-à-dire que les injonctions corporelles qui sont formulées par la blanchité, en fait, elles sont genrées. Et lorsqu'il y a une transition d'un genre à un autre, c'est la perception du genre et de la race sont mêlées et sont modifiées.
Bah, moi, je vois bien. Enfin, je veux dire, c'est exactement le revers de ce que quelqu'un comme Sofiane peut raconter. C'est-à-dire que... Je redécouvre, il y a des personnes qui s'assoient à côté de moi dans les transports en commun, par exemple. Ça faisait des décennies que ça n'arrivait pas. Je croise des regards que j'aurais jamais croisé avant. Enfin, voilà, je vois bien que je ne représente plus la même menace dans l'espace public. Et ça, c'est criant. C'est vraiment très, très flagrant et très troublant parce que c'est pas subtil.
La Sendra Ninja, dans son texte, elle parle du stigmate de la prostitution pour les femmes trans et ce passage et ce rappel de la masculinité noire qui est assez présent.
Est-ce que toi, la masculinité noire, c'est une vie qui t'habite toujours? Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des choses qui s'additionnent ou qui se soustraient. Et qu'est-ce que cela signifie? Et aussi, la Sendra Ninja, elle dit, avant de vouloir éduquer les gens sur la transidentité, ça serait bien qu'ils soient éduqués sur le fait d'être noir. Est-ce que tu es d'accord avec cette, cette déclaration?
Complètement. Enfin, complètement. C'est évident que le chemin vers la pleine réalisation de soi, il ne peut pas s'extraire de la manière dont la race elle a surdéterminé nos vécus et nos trajectoires. Et moi, de toute façon, la masculinité noire et la manière dont je me suis construite avec ça, à l'intérieur de ça, et pendant assez longtemps, vu que j'ai transitionné assez, assez tardivement, bien sûr que ça reste très, très présent en moi, parce que ça a marqué mon corps. J'en parle, hein, la question de la masculinité noire, dans un texte que j'avais écrit pour le recueil de Léonora Miano, Marianne et le garçon noir. Ça a effectivement complètement conditionné une quantité de mes attitudes et aussi de mes impossibilités, hein, de circulation dans l'espace et dans le monde, on va dire. Et encore une fois, effectivement, je ne m'en suis pas débarrassé avec la transition. Je ne m'en suis pas débarrassé. Et je reste aussi très proche et très attaché aux hommes noirs.
Dans l'épisode « Femmes non blanches, mères à tout prix », Rokhaya et Grace échangeaient entre elles autour de la question de la maternité.
L'image de la femme noire, c'est vraiment une image qui est hyper maternelle. Tu vois, les femmes noires, elles sont vraiment perçues comme étant intrinsèquement maternelles. C'est la mère par excellence. C'est même, voilà, c'est la... Tu vois, historiquement, pour plein de raisons, hein, les femmes noires ont été amenées à s'occuper des enfants des autres. C'est souvent l'image de la nounou africaine, dont on imagine qu'elle va très bien s'occuper des enfants parce qu'elle a quasiment un don. Ce sont les femmes aussi dont on imagine qu'elles ont souvent une descendance très abondante. D'ailleurs, on se souvient, on en a parlé ici d'Emmanuel Macron sur les propos qu'il avait sur les femmes africaines qui feraient trop d'enfants et qui seraient la raison de la pauvreté en Afrique. Donc c'est une image qu'on associe aux femmes africaines, mais aux femmes aussi afro-descendantes, et donc qui sont aptes à s'occuper de la descendance de toutes les autres femmes qui composent l'humanité. Et donc se poser comme une femme noire non désireuse d'enfance, c'est aussi, pas d'enfance, parce que j'ai eu une enfance quand même, et c'est aussi se créer une image qui n'existe pas en fait dans l'imaginaire collectif. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes noires n'existent pas en dehors de leur capacité à materner, à faire plaisir aux autres, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, à nettoyer, à soutenir en fait le reste des autres personnes. Et du coup, je trouve qu'on a du mal à les percevoir comme des personnes qui se concentrent sur leur propre destinée et qui finalement font un choix qui est lié à ce qu'elles considèrent comme étant leur bien-être. Il y a cette image aussi de la femme potomitan, donc c'est une expression qu'on retrouve dans les Antilles françaises, qui est la femme qui est centrale en fait. Le potomitan, c'est le poteau qui est au milieu d'un logement en fait, et donc qui soutient l'ensemble du foyer. Et c'est évidemment une image qui existe, qui est liée à l'histoire de l'esclavage, qui a placé les femmes dans une position de soutien en fait de groupes familiaux. Et c'est vrai que ce sont des femmes qu'on a beaucoup valorisées dans l'imaginaire collectif de la Guadeloupe, de la Martinique, mais c'est vrai que c'est aussi une image qui est un peu oppressive. Et cette image de la femme noire très forte qui peut tout faire, qui peut soutenir des familles très nombreuses et en être le centre, c'est une image qui a été vraiment très très popularisée dans l'imaginaire collectif. Donc ça, je trouve que du coup c'est important de montrer aussi autre chose. Et puis en plus d'être une femme noire, je suis une femme musulmane, donc la femme musulmane, c'est aussi une femme qu'on imagine, pour plein de raisons, très dans l'hétéronormativité classique, et donc dans forcément une destinée maternelle, puisque c'est forcément, enfin, c'est des femmes qu'on imagine en fait beaucoup plus sujettes au patriarcat, et forcément, voilà. Donc voilà pourquoi je pensais que c'était intéressant. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, et si.
Moi, je trouve ça très intéressant d'adresser cette question-là en tant que femme perçue comme étant asiatique. Ayant des enfants, pour moi aussi, c'est très important de séparer la femme de la maternité. C'est pas parce que je suis mère que je suis que mère. Et c'est important qu'on puisse... moi, par exemple, c'est très important que moi, je sache, et que mes enfants sachent, d'ailleurs, que j'ai une vie en dehors d'eux, et que je suis... et que c'est ça qu'ils vont devenir plus tard. C'est-à-dire, ils vont devenir des adultes, et ils ne devront pas forcément s'occuper de quelqu'un, ou forcément avoir des enfants. et que, en tant que femme asiatique, l'image de la femme asiatique est aussi très maternelle. Il y a cette idée d'être une femme, avant d'être en couple ou fonder une famille, c'est une femme qui est plutôt voilà, douce, plutôt disposée à rendre l'homme heureux dans les relations hétérosexuelles, quelque chose de l'ordre du plaisir. Et ensuite, quand la femme perçue comme est-asiatique se marie, alors elle se transforme en fée du logis. Elle est aussi dans beaucoup vue dans ses métiers du care, du soin. Donc, que ce soit nourrice, s'occuper de la maison, nettoyer, femme de ménage. C'est comme le mythe de la minorité modèle qui est appliqué à une nounou, enfin appliqué à un métier en fait, quoi, comme la nounou philippine qui serait enfermée dans des stéréotypes positifs. De « Ah bah, elle s'occupe bien des enfants, elle est douce, elle fait bien la cuisine, et c'est génial, en fait. »
On va vraiment... pas te crier dessus comme les Noirs.
comme les méchantes. non, on vous aime bien, vraiment.
non, mais tu vois, c'est marrant, cette image de maternité, parce que les maternités des femmes noires, c'est vraiment perçu comme une espèce de maternité aussi autoritaire, tu vois. Tu vois, t'as vraiment les images, même dans les films américains, des femmes noires, des mères noires qui font peur à leurs enfants et qui sont hyper autoritaires, qui font peur à tout le foyer.
Angry black woman, ouais, c'est donc ça, c'est la ça. Femme noire.
Ouais, c'est ça. Mais vraiment, il y a un truc comme ça. C'est une bonne mère, mais quand même une mère pour laquelle, tu vois, tout le monde file droit, en fait.
Oui, il y a la question de la colère qui est très présente.
Ouais, ouais, exactement.
C'est la fin de cet épisode best-of de Kif Taras. Ce podcast est une production Binge Audio, animée par Rokaya Diallo et Grace Lee. La réalisation de cet épisode est signée Paul Berthiaud. La production et l'édition sont assurées par moi-même, Naomi Titi. Si vous souhaitez écouter ou réécouter en intégralité les entretiens compilés dans ce best-of, on vous met tous les liens d'écoute dans la page qui accompagne la diffusion de cet épisode sur le site binge.audio. Vous pouvez toujours nous suivre et nous contacter sur Instagram et sur Twitter à @kiftaras ou encore nous écrire par mail à l'adresse kiftaras@binge.audio. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.